Jeffrey Epstein risque de finir ses jours en prison après cette inculpation pour trafic sexuel de mineurs. Des dizaines de jeunes filles exploitées, abusées sexuellement, certaines n'avaient que 14 ans. Il les recrutait en leur promettant quelques centaines de dollars pour des massages nus.
Bonsoir. Little St. James, une île paradisiaque des Caraïbes, devenue l'île du vice. Mais encore, la Villa El Brillo à Palm Beach, le Ranch Zorro au Nouveau-Mexique, une prestigieuse adresse à New York, ou une autre à Paris, avenue Foch, autant de luxueuses propriétés, où le milliardaire Jeffrey Epstein, pendant 30 ans, a reçu, abusé, utilisé et terrorisé des centaines de filles, toujours jeunes, très jeunes, parfois mineures, toujours fragiles, jamais très loin d'être en marge de la société. 30 ans d'impunité pour cet homme qui faisait la pluie et le beau temps à Wall Street et qui se révèle comme l'un des pervers sexuels les plus méthodiques, les plus compulsifs de l'histoire du crime. Son suicide, auquel personne ne croit, dans une prison new-yorkaise en août 2019, n'a pas suffi à refermer le dossier. Au mois de juillet prochain, toute l'affaire sera sur la table avec le procès de la riche Ghislaine Maxwell, égérie de Jeffrey Epstein, accusé d'avoir été sa rabatteuse en chef. Avec nos invités, ce soir, nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi Jeffrey Epstein a échappé pendant 30 ans à la justice. Sans doute pouvait-il compter sur des amis puissants, souvent invités sur l'île du vice et dont les noms figurent dans les carnets noirs du milliardaire.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Jeffrey Epstein, un scandale sexuel qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Le nom du milliardaire apparaît pour la première fois dans le radar de la police au printemps 2005, en Floride. En ce mois de mars 2005, le shérif de Palm Beach, Michael Reiter, enregistre la plainte d'un père qui affirme que sa fille, 14 ans, a été molestée par un homme. Ce père a découvert par hasard 300 dollars dans son sac. Quand il a demandé à sa fille d'où provenait l'argent, celle-ci lui a raconté que deux de ses amis de collège, le Royal Palm Beach High School, l'avaient entraîné dans une villa, 300 dollars, pour faire un massage au propriétaire d'une maison d'El Brillo Way, un certain Jeffrey Epstein, l'un des milliardaires qui habite ce quartier parmi les plus cossus de Palm Beach. Le shérif Reiter prend l'affaire au sérieux, d'autant plus que les policiers dénombrent vite les allées et venues de plusieurs jeunes, voire très jeunes filles à cette adresse. Des surveillances sont mises en place pour savoir ce qui se passe vraiment derrière ces murs. Il faudrait un mandat de perquisition et pour l'obtenir, il faut davantage d'indices qu'un simple témoignage. Au mois d'avril, les policiers fouillent discrètement les poubelles de la luxueuse villa. Ils trouvent notamment un message d'Epstein pour un rendez-vous avec une fille mineure, ainsi que des noms d'autres filles, des annotations et des numéros de téléphone. Le shérif Reiter a décidé de conduire les investigations dans la plus grande discrétion. Il s'est renseigné sur ce Jeffrey Epstein, 53 ans, un as de la finance qui a énormément d'argent et beaucoup d'appui. S'il était alerté de quoi que ce soit, le financier et son armée d'avocats pourraient réduire l'enquête à néant. L'équipe du shérif est composée d'une poignée d'hommes fidèles et dévoués. Le chef de la police s'appuie aussi sur un détective, Joseph Recaré, le premier à établir le profil type des proies d'Epstein, des filles très jeunes, issues de milieux modestes ou défavorisés, en butte à des problèmes de drogue ou d'échecs scolaires. Les filles sont rabattues à la sortie du collège par une ou deux femmes de 25-30 ans qui proposent d'aller faire un massage moyennant 200 ou 300 dollars avec cet argent. Ces filles pourront enfin se payer ce qu'elles désirent, du parfum, des robes, des chaussures. Au mois d'octobre, les policiers commencent à entendre une série de victimes potentielles. Toutes racontent plus ou moins le même scénario. Elles se sont présentées au numéro 385 d'El Brillo Way. Le massage, qui devait avoir des vertus médicales, s'est vite transformé en massage sexuel. Elles décrivent des attouchements, des agressions sexuelles violentes et même des viols. Elles ont parfois quitté les lieux terrorisés avec leurs poignées de dollars et par honte n'ont jamais rien dit. Très vite, une cinquantaine de victimes sont répertoriées. Les plus jeunes ont 14-15 ans. Nous ne savions pas si nous pourrions toutes les compter, dira le shérif Reiter. Bonsoir Jean-Gabriel Fredet.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Et vous êtes ce soir dans le studio avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur d'un excellent livre sur cette affaire Epstein, ou en tout cas la partie que l'on connaît. Livre qui s'appelle « L'île de tous les vices » chez Albin Michel. Alors, Jean-Gabriel Frodet, on est là vraiment au balbutiement de l'affaire oui. Epstein. C'est le point de départ. On va bien sûr voir la suite qui va être donnée à toute cette affaire dans les chapitres suivants de cette émission. D'ores et déjà, on peut dire que le shérif Reiter, qui finalement allume la mèche dans cette histoire, il tombe complètement dénu quand il s'aperçoit de la quantité de plaignantes potentielles qui se présentent à lui.
Oui, il tombe dénu quand il voit le nombre des plaignantes. Il tombe dénu aussi lorsqu'il essaye, à partir de ses témoignages, de recomposer le profil du prédateur. Il s'aperçoit que c'est quelqu'un de la bonne société de Palm Beach, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Et dans ce petit écosystème, c'est très difficile de faire progresser une enquête.
Bien sûr.
Les gens se tiennent, oui, ils s'amusent entre eux.
C'est quelqu'un de respectable.
C'est Epstein, quelqu'un qui
a la pignon sur
tout
rue.
Tout à fait, il a pignon sur rue. Il y a eu des profils de lui très très élogieux dans la presse, oui. Notamment dans le New Yorker. On sait que c'est un self-made man, c'est un money maker. Il fait de l'argent. Il a très bien réussi d'abord dans la banque, ensuite comme vous l'avez dit à Wall Street, et il s'est spécialisé dans le conseil de patrimoine à des gens. Il ne prend que des clients qui ont plus d'un milliard de patrimoine.
Oui, ce qui est déjà pas mal.
Déjà pas mal.
Alors les filles, là, on revient un petit peu, on se recentre sur cette enquête, encore une fois, qui ne fait que démarrer. Ces filles qui se présentent, 10, 20, 30, sans doute 50 au début de cette enquête, elles racontent à peu près tout le même scénario.
Elles racontent à peu près tout le même scénario. Il y a un bémol par rapport à ce que vous venez de dire.
Allez-y.
C'est que, si je peux me permettre, c'est que elles reçoivent 100 ou 200 dollars, mais Epstein double la mise si elles ont la mauvaise idée d'amener une copine pour alimenter ce flux ininterrompu de mineurs. Vous avez très bien dit, vous avez défini un petit peu le profil de ces filles. Moi, j'ajouterais que généralement, on est à Palm Beach, elles viennent de West Palm Beach, qui n'a rien à voir avec cet écosystème de riches et de gens qui pratiquent l'entre-soi. Généralement, c'est des filles qui sont très jeunes, effectivement, qui ont été repérées à la sortie de leur collège, dans une patinoire ou dans un mall, et qui sont issues de milieux vraiment très défavorisés, qui viennent de familles fragmentées,
ça,
et
ouais.
pour lesquelles 100 ou 200 dollars, ça représente une somme absolument énorme.
Évidemment, c'est très très important. On a, je crois, en ligne notre deuxième invité ce soir dans l'ONU Crime. Bonsoir Olivier O'Mahony.
Bonsoir.
Vous êtes, merci beaucoup d'abord, tout d'abord d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis New York. Vous êtes journaliste et vous êtes correspondant aux États-Unis pour l'hebdomadaire Paris Match. En ce début d'enquête, Olivier O'Mahony, vous allez suivre évidemment toute cette enquête qui va faire beaucoup de bruit aux États-Unis. Là, les investigations, elles sont discrètes, mais c'est un peu l'habitude de la police. On y va doucement parce que face aux puissants, c'est compliqué, c'est bien ça?
Là, vous voulez parler des années au début de l'enquête, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, au tout début.
Oui, alors Michael Reiter, le shérif Michael Reiter que vous avez cité tout à l'heure, lui est évidemment, il a mené une enquête qui a duré 13 mois et qui est très poussée. Et lui, il s'est exprimé après coup,
bien sûr,
pour dire qu'il était absolument convaincu de la culpabilité de Jeffrey Epstein. Et il croyait absolument à 100% les témoignages, la trentaine de témoignages que vous avez rappelés tout à l'heure et qu'il a recueillis et qui lui paraît très convaincant. Ce que je veux dire, c'est que cette affaire-là, à l'époque, c'est vraiment une affaire de faits divers. C'est pas encore une affaire politique.
Mmh.
Donc elle dépasse pas la rubrique faits divers. Donc les gens qui sont incriminés, les Bill Clinton, les Donald Trump, etc., sont pas encore là.
On est d'accord, Olivier O'Mahony, ça viendra beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard. Ça viendra plus tard dans les papiers, notamment, et les archives de Jeffrey Epstein.
Voilà.
Voilà. Jean-Gabriel Frodet nous disait que c'était un milieu très particulier, Palm Beach. Vous connaissez évidemment, vous, ce coin de Floride. C'est vraiment la terre d'élection des gens riches et des super riches.
Écoutez, oui, je connais bien Palm Beach parce que j'y suis allé à de nombreuses reprises pour divers sujets. Palm Beach, oui, c'est une enclave de riches. Hein. C'est un univers. Quand on rentre à Palm Beach, on est très intimidé par les énormes villas qui sont au bord de l'eau, avec des palmiers, et surtout les pelouses vertes sont d'un vert même irréel, quoi. Alors les gens portent des tenues aussi extrêmement colorées. Ils ont souvent c'est des gens qui sont très âgés. On a l'impression qu'ils ont 50 ans seulement parce qu'ils sont ils sont recouverts de botox. Enfin, c'est vraiment un univers incroyable, ultra républicain. Et comme on le rappelait Jean-Gabriel Frédé tout à l'heure, très juste titre, en effet, le West Palm Beach, qui est donc là où vivaient les victimes ou les accusatrices de Jeffrey Epstein, eh ben écoutez, là c'est plutôt là où habitent entre guillemets les domestiques. Oui, donc ça vote démocrate. Mm-hmm. Donc c'est deux terres qui sont complètement différentes et qui sont séparées par un banc de mer. C'est, le contraste est très saisissant à voir.
Vu le dossier, difficile a priori pour Jeffrey Epstein, qui risque d'être accusé de détournement de mineurs et même d'actes pédophiles, d'échapper à la justice et à la prison. C'est pourtant tout le contraire qui va se dérouler. Ce 30 juin 2008, Jeffrey Epstein comparaît devant le tribunal de Palm Beach pour avoir sexuellement agressé de nombreuses jeunes filles, dont des mineurs, entre 2003 et 2005. Sur toutes les victimes potentielles entendues par les enquêteurs, 34 figurent dans la procédure et se sont portées partie civile. Leurs noms sont anonymes, mais plusieurs sont toutefois présentes dans la salle d'audience. Le dossier d'accusation est accablant. 53 pages qui peuvent conduire le milliardaire Epstein en prison jusqu'à la fin de ses jours. Comme le veut l'usage, le prévenu, numéro 377-55, est arrivé menotté devant les juges. Il porte un jean, un simple blazer sur une chemise bleue sans cravate et affiche un air singulièrement décontracté. L'explication de cet air détendu ne tarde pas à surgir. Le procès, qui semblait bien engagé, tourne brutalement court. Au bout de 68 minutes, le tribunal déboute les 34 plaignantes. Les principaux chefs d'accusation, agression sexuelle et trafic sexuel, ne sont pas retenus. Un accord que tout le monde ignorait est intervenu entre les avocats d'Epstein et Alexander Acosta, le procureur fédéral de Floride, la plus haute autorité judiciaire de cet État. Les charges sont réduites à une sollicitation de prostitution de mineurs. Ça n'est plus un crime, mais un délit. Jeffrey Epstein écope de 16 mois de détention, mais n'en fera au total que 13. Au regard des charges, pas de prison proprement dite, mais un régime de semi-liberté dans un quartier spécial du pénitencier de Palm Beach. Le businessman, officiellement enregistré comme délinquant sexuel, peut passer ses journées dans ses bureaux ou à son domicile. Il est tenu de dormir au pénitencier. Lors de ses heures de sortie, il peut rencontrer qui il veut à sa guise et recevoir qui il veut dans sa villa. Il n'y a plus de surveillance autour de la maison. Il apparaîtra que d'autres très jeunes filles ont franchi les murs de la demeure lors de cette période de semi-liberté. Il a certes une obligation de soins, consulter un psychiatre, mais le condamné est libre de s'organiser comme il le veut et de choisir son praticien. Epstein, épaulé par les meilleurs avocats du pays, vient de faire un pied de nez à la justice de Floride, ou plutôt est parvenu à la contourner. L'un de ses avocats, Jay Lefkowitz, avait rencontré dès 2007 dans un hôtel le procureur fédéral pour obtenir un accord. Les enquêteurs sont atterrés, tout comme les victimes. L'une d'elles, Michelle Licata, dit « Il a ruiné ma vie. Les gens doivent savoir ce qu'il a fait et pourquoi il n'a pas été jugé. » Jean-Gabriel Frodet, notre invité ce soir, est journaliste et auteur de « L'île de tous les vices » chez Albin Michel, livre qui raconte l'histoire Epstein. Eh bien, je vous retourne cette question de cette jeune femme qui a été agressée par Epstein. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jugé ?
Vaste question qui débouche sur le mode de fonctionnement de la justice aux États-Unis. C'est, pour simplifier, je vais essayer d'étayer ce que je vais dire, c'est une justice pour les riches. En d'autres termes, il n'y a pas de délit ou de crime qui ne puisse se résoudre par ce qu'on appelle un plea deal, c'est-à-dire une transaction, un arrangement financier. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gamines et leurs avocats sont confrontés à une proposition de l'avocat d'Epstein, qui on va s'apercevoir qu'il connaît très bien le procureur général, et il leur propose ce fameux plea deal, c'est-à-dire de les indemniser financièrement sans que le fond de l'affaire puisse être traité. C'est le problème de la justice américaine.
Alors, c'est un accord. Hein.
C'est un accord passé entre... La justice américaine, c'est une justice inquisitoire, si vous voulez, au contraire de la justice américaine qui est accusatoire. C'est-à-dire que police et justice peuvent s'entendre et il peut y avoir un accord qui se fait sous l'autorité du procureur général, de l'attorney général, et qui est proposé aux victimes.
Aux victimes, on est d'accord, sauf que là, Jean-Gabriel Fredet, si je ne m'abuse, les victimes, elles ne sont pas au courant
alors là,
de cet accord.
Vous avez une fois raison. Le scandale, cette fois-ci, est double, parce que ce plea deal, cet accord, cette transaction a été négociée dans le plus grand secret, à l'hôtel Marriott, à 60 km de l'endroit où ils sont jugés, par... un avocat qui s'appelle Jay Lefkowitz, dont vous avez parlé, qui a travaillé dans le même cabinet d'avocats que le procureur général, qui est Alexander Acosta. Ils s'entendent bien, ils se connaissent. Le procureur général va lui laisser la rédaction de ce fameux plea deal.
Incroyable.
Et ce plea deal, et vous avez mille fois raison, d'autant plus scandaleux que il se fait dans l'obscurité, oui, dans l'absence de transparence absolue. Les victimes ne le connaissent pas, ne sont pas au courant. Le jugement ne leur sera jamais signifié. Le plea deal leur interdit de faire appel. Dans son énoncé, non seulement Epstein est en quelque sorte absous, puisque le crime est requalifié en délit, et les co-complices ont l'assurance qu'ils ne seront pas poursuivis.
Bien sûr. Olivier O'Mahony, vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime, correspondant de Paris Match à New York et pour les États-Unis. Est-ce que ça fait du bruit, cet accord à l'époque, ou bien ça passe totalement inaperçu?
Ça fait du bruit, oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépasse pas les pages des faits divers, hein, des journaux, puisque ça n'empêchera pas Alex Acosta, procureur fédéral du sud de la Floride, de rentrer dans l'administration Trump plus tard. Ça sera pas ce qu'on appelle une casserole qui l'empêchera de mener une carrière judiciaire et politique plus tard. Donc c'est un peu business as usual. En effet, on est dans le cas d'une justice, plus vous avez d'argent et des très bons avocats. Ce que dira Alex Acosta plus tard, parce que vous savez qu'Alex Acosta s'est fait débarquer de l'administration Trump.
Oui, 13 jours. On en dira un mot tout à l'heure, bien sûr.
Mais ce qu'il dira pour justifier ce plea deal, c'est qu'en fait, les charges était insuffisamment étayé pour justifier un procès qui aurait abouti à une condamnation de Jeffrey Epstein. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est sa manière de justifier. Donc il dit simplement, voilà, on a fait ce plea deal, c'était la seule manière
dossier
de
trop léger, de condamner. À l'été 2009, Jeffrey Epstein quitte le pénitencier de Palm Beach. Il a évité la prison et il a effectivement bien peu de chances d'y retourner un jour. Son dossier, pour ainsi dire, est réduit à néant. Au mois de juillet 2009, Jeffrey Epstein n'est plus obligé de dormir au pénitencier. Il doit cependant, et pendant un an encore, pointer régulièrement auprès de la police de Palm Beach, ville dans laquelle il reste assigné à résidence. Surveillance des plus souples. Il apparaît que pendant cette période, le milliardaire se promène à sa guise. Il fera ainsi des voyages avec son jet privé, baptisé le Lolita Express, jusqu'à son appartement de Manhattan, mais aussi jusqu'à Little St. James, son île privée des Caraïbes, jusqu'ici à l'abri de la curiosité des autorités. Quand un policier le surprendra déambulant dans un quartier de Palm Beach alors qu'il devrait être à son bureau, Son officier de probation répondra que l'homme a besoin de faire de l'exercice. Les passe-droits continuent pour Epstein qui semble pouvoir tout se permettre. Une douzaine de nouvelles plaintes sont déposées par des filles qui déclarent qu'elles étaient mineures quand il les a agressées sexuellement. Mais ces plaintes sont écartées les unes après les autres. Bien que Jeffrey Epstein apparaisse intouchable, le FBI continue à garder un œil grand ouvert sur le personnage. Au mois de novembre 2009, les policiers recueillent ainsi les confidences d'un ancien employé du milliardaire, le travesti majordome Alfredo Rodriguez. Celui-ci affirme avoir vu plusieurs fois son patron en pleine action avec de très jeunes filles nues, notamment au bord de la piscine de la villa de Palm Beach. Il ajoute que Epstein consultait des sites pédopornographiques sur ses ordinateurs. Rodriguez détient un carnet noir, 97 pages, dans lequel figure une bonne partie des contacts de Jeffrey Epstein et de celles qui partagent son existence sans forcément partager son lit depuis des années. Ghislaine Maxwell, la fille du mania de la presse Robert Maxwell. Cette liste contient tout aussi bien de simples relations de travail que des amis fidèles, des habitués des résidences d'Epstein et plusieurs personnalités. Y figurent ainsi les noms d'un futur président Donald Trump et d'un ancien Bill Clinton. Pour ce dernier, pas moins de 20 numéros privés et d'adresses mail où il peut être joint à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Avril 2010, les relevés des vols privés des jets privés d'Epstein dévoilent des dizaines de voyages avec des personnalités, des déplacements dans le monde entier depuis le début des années 2000. Parmi les passagers du Lolita Express apparaissent Bill Clinton, le prince Andrew d'Angleterre, la top modèle Naomi Campbell ou encore l'acteur Kevin Spacey. Certains de ces vols avaient pour destination l'île de Little St. James, qui sera un jour rebaptisée l'île du vice, ou encore l'île aux pédophiles. Jean-Gabriel Fredet, votre livre s'appelle « L'île de tous les vices ». Il apparaît que ça va être un centre permanent, une convergence pour tous les voyages d'Epstein, un lieu de rassemblement,
oui,
et de retrouvailles.
C'est un peu la métaphore de son réseau. C'est là où il invite des gens qui sont probablement intéressé par des jeunes filles ou des jeunes femmes à cohorte et prépubères, qui partagent donc ces obsessions. Et c'est aussi ce qui va être le test de ses amis, de ses proches. Parce que ceux qui sont invités dans cette île de tous les vices et qui empruntent le Lolita Express, ce sont des gens qui figurent dans ce fameux carnet noir dont vous avez parlé. Ce sont des gens de confiance. Il y a bien entendu, vous l'avez rappelé, il y a le nom des victimes. Mais il y a cerclé au crayon par Alfredo Rodriguez,
le majordome.
Le majordome, il y a le nom des habitués, ceux qui font partie du premier cercle. Et on y trouve, ça sera corroboré ensuite par les enquêtes, des gens qui sont très puissants, surtout des gens des financiers,
des banquiers.
Des banquiers, on trouve par exemple, ou alors des industriels, on va trouver Leslie Wexner qui est le patron d'un empire de prêt-à-porter qui possède notamment cette enseigne Victoria's Secret. On va retrouver, et il restera son ami jusqu'au bout, Léon Black, qui est le patron d'un énorme fonds
d'investissement.
D'investissement qui gère pratiquement 500 milliards et qui va confier d'ailleurs la gestion de sa fondation à son ami Epstein. On va retrouver même le nom de Bill Gates avec tous les...
Oui, il y a Bill Gates, effectivement.
Alors, Bill Gates, c'est un... Bill Gates, c'est très différent. Il n'aurait... naturellement, il conteste avoir été un habitué de l'île de tous les vices, comme vous l'avez dit, mais il empruntait une fois le Boeing 727 d'Epstein, et il a, pendant 4 ans, ils ont failli être en affaires. Bill Gates avait besoin d'argent pour sa fameuse fondation qui veut permettre à l'Afrique, notamment, de profiter profiter de médicaments. Et Epstein se faisait fort de trouver des contributeurs moyennant un pourcentage de l'argent qu'il apportait. C'est ça. Alors finalement, Bill Gates a refusé, et l'affaire ne s'est pas faite, mais ils ont été proches pendant 4 ans, et pendant 4 ans, Epstein le présentait à ses amis comme un trophée, regardez les gens que je connais, etc. Ça lui servait déjà, bien sûr, quelque sorte de couverture.
Et de monnaie d'échange, le cas échéant. Voilà. Olivier O'Mahony, correspondant à New York pour Paris Match, et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, j'ai cité, alors dans cette liste et dans ce carnet noir, comme on l'appelle, les deux présidents, Trump et Clinton. Quelles sont les relations d'Epstein avec l'un et l'autre ?
Alors Donald Trump, il rencontre en 1987. En fait, Trump et Epstein fréquentent les mêmes cercles, à New York d'abord et à Palm Beach ensuite, où, comme vous l'avez rappelé, les deux possèdent une maison. Ils partagent tous les deux le goût pour les femmes. Je crois que ce sont surtout des amis de fête, Trump et Epstein.
En Floride, notamment.
Oui, Epstein a prétendu qu'il avait présenté Melania à Donald. Bon, ça c'est faux, mais donc en ce qui concerne, il se voit notamment à Mar-a-Lago. Puis un jour, Trump a prétendu après qu'il avait interdit l'accès à Epstein de Mar-a-Lago. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Trump a pris ses distances effectivement quand le scandale a éclaté à Epstein en 2005.
Quand ça a commencé à sentir mauvais. Alors un mot quand même sur Bill Clinton, parce que lui, il avait déjà été inquiété pour des affaires sexuelles avec Monica Lewinsky.
Exactement. Alors Clinton, ils se sont rencontrés après le départ de Clinton de la Maison Blanche, donc vers les années 2001-2002. Et le lien, c'est la fondation Clinton, un petit peu comme pour Bill Gates, comme on l'a rappelé. Donc Clinton crée une fondation caritative humanitaire. Epstein se pique de philanthropie, donc il devient un donateur et donc il finit par se rapprocher de Clinton pour notamment lutter contre le virus HIV en Afrique, etc. Donc il se retrouve à voyager avec Bill Clinton, même de l'inviter Bill Clinton dans son avion Lolita Express.
Ouais, mais vous confirmez, Clinton, il va aller sur cette fameuse île dont on parlait.
Justement, je confirme pas, parce qu'en fait, Clinton le dément. Oui. Et par contre, vous avez raison de le signaler, parce que en fait, plusieurs personnes affirment avoir vu Clinton sur l'île. Mais bon, Clinton le dément. Clinton dit simplement avoir pris 4 fois l'avion avec deux Jeffrey Epstein pour voyager dans des contrées africaines et asiatiques, etc., dans le cadre de sa fondation. Dément le fait d'avoir été sur l'île, sauf qu'il y a effectivement des témoins qui disent l'inverse.
Malgré les soupçons, Jeffrey Epstein est bien décidé à se refaire une image. Il va essayer de se fabriquer une nouvelle réputation, celle d'un mécène et d'un philanthrope, et ce en dépit des nuages qui continuent de s'accumuler. Jeffrey Epstein a beau se montrer avec toute la bonne société américaine, a brillé lors d'un dîner des milliardaires auquel participe le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, ou celui de Tesla, Elon Musk, à être remercié par l'université d'Harvard pour sa générosité financière, il n'en reste pas moins menacé par la justice. Il a retrouvé l'immeuble dans lequel il vit à Manhattan sur la 71e rue. C'est là qu'il a célébré la fin de sa période de probation avec l'un de ses meilleurs amis, le prince Andrew. Certains faits qui lui sont reprochés ont été commis à cette adresse, à New York. La justice locale pourrait donc s'en emparer. Début 2011, il déclare au New York Post « Je ne suis pas un prédateur, je suis un agresseur sexuel. C'est toute la différence entre un meurtrier et un voleur de bagels. » Fin 2011, Epstein est officiellement enregistré comme un agresseur de niveau 3 à New York, le plus élevé, celui qui présente le plus grand risque de récidive, un statut qui ne semble pas pour autant le contrarier. Il continue à voyager, le plus souvent sur son île privée des Caraïbes ou encore en France, où il possède un appartement de 800 mètres carrés, 22 avenue Foch, au pied de l'Arc de Triomphe, une adresse qui aurait été propice au recrutement de très jeunes mannequins qui feront le voyage jusqu'aux États-Unis. Dans les années qui suivent, les plaintes se multiplient. Une jeune femme, Virginia Roberts Giuffre, accuse d'avoir été contrainte à des relations sexuelles avec le prince Andrew et l'ami avocat d'Epstein, Alan Dershowitz. Les deux intéressés nient. Une autre femme, Kathy Johnson, dit avoir été violée par celui qui est alors candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, dans l'appartement de Manhattan. Donald Trump dément. La digue qui tenait bon jusque-là est en train de céder. Le 6 juillet 2019, alors qu'il vient de se poser à bord de son jet privé sur l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, Epstein est arrêté par le FBI. Il est accusé, sur la base de plusieurs plaintes et d'éléments mis au jour par la police, de trafic sexuel concernant des personnes mineures. Il plaide coupable et il est incarcéré. Il encourt jusqu'à 45 ans de prison, selon la loi fédérale. 4 jours après son inculpation, l'ancien procureur fédéral Acosta, le sauveur du milliardaire éclaboussé par le scandale, démissionne du gouvernement Trump. Une douzaine de nouvelles plaintes sont déposées. Cette fois, Jeffrey Epstein n'échappera pas à un procès comme ce fut le cas en Floride. Jean-Gabriel Fredet, auteur de L'île de tous les vices, ce livre sur l'affaire Epstein. Alors, quel est le déclic? Comment expliquer finalement ce retournement de situation qui a pris du temps, hein, plus de 6 ou 7 ans, je crois.
10 ans.
10 ans, voilà, 10 ans. Quel est le déclic qui a poussé à cette arrestation?
Je ne sais pas si c'est un déclic, c'est une accumulation de présomptions qui finissent par créer un faisceau de preuves irréfragables. Il y a d'abord le FBI qui a été écarté, qui est l'autorité du ministre de la Justice, qui a été écarté, qui avait un dossier extraordinaire, qui n'a pas été entendu en 2008. Cette fois-ci, il veut sa revanche. Il veut d'autant plus que sa revanche que d'autres plaintes ont été déposées, notamment une plainte de Virginia Robert Giuffre, qui, sous serment, désigne comme agresseur un certain nombre de personnalités, dont le prince Andrew, le duc d'York, qui l'aurait agressé plusieurs fois dans les multiples domiciles de Jeffrey Epstein. Et puis, il y a aussi l'air du temps, l'atmosphère a changé. En 2017, il y a eu MeToo, si vous voulez, à la suite de l'affaire Weinstein. Le bon peuple américain qui nourrit toujours des soupçons à ce qu'il a, vis-à-vis de au fond des gouvernants qui récusent, qui n'aiment pas beaucoup les gens qui ont beaucoup d'argent, qui vivent dans l'entre-soi, cette fois-ci il veut des coupables. Et la justice qui avait regardé ailleurs en 2008, cette fois-ci elle est obligée de regarder en face les accusations dont on accable Jeffrey Epstein, et elle doit faire un exemple. Donc cette fois-ci, l'agression sexuelle et le trafic sexuel sont les chefs d'accusation principaux.
Olivier Mahomahoni, vous êtes en direct ce soir dans l'heure du crime depuis New York. Alors vous nous disiez fort justement d'ailleurs que jusqu'à présent, c'était un fait divers, cette affaire Epstein. Là, c'est plus pareil. Comment réagit l'Amérique à cette arrestation spectaculaire ?
L'Amérique réagit effectivement de manière beaucoup plus forte parce que le mouvement MeToo est passé par là. La justice s'est mobilisée, mais les médias se sont mobilisés aussi. Et effectivement, le mouvement MeToo a commencé en octobre 2017. Dans la conférence de presse que le procureur de l'époque de New York, Jeffrey Berman, dans cette conférence de presse, il a rappelé le rôle de la presse, en particulier du Miami Herald, qui est le journal local de la Floride, qui a donné la parole, qui a véritablement réouvert le dossier. Et il l'a fait en novembre-décembre 2018, donc un an après le début du mouvement MeToo. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour le public, pour ces affaires. Et donc cette fois-ci, les victimes, autrefois, comme vous savez, les victimes, on les écoutait pas, elles étaient forcément des menteuses, n'est-ce pas ? Ben là, non. Les gens avaient envie d'une part d'écouter les victimes et ensuite d'enquêter.
Bien sûr. Avec une victime, il faut en parler, dire un mot. Olivier Mahomahoni, qui a un rôle central et presque un rôle pivot, c'est Virginia Robert Giuffre. Elle va mettre quand même vraiment le feu à ce dossier, on peut dire.
Oui, ben c'est elle qui, elle est partie, elle a quitté le Jeffrey Epstein d'un coup d'un seul, et elle s'est mariée en Australie, etc. Elle a refait sa vie, et elle a eu des enfants, et après elle est effectivement remontée au créneau. Elle traînait ce traumatisme comme un boulet dans sa vie, et pour justement, elle a commencé à vouloir demander justice, notamment des procédures pour diffamation contre Ghislaine Maxwell, et donc elle a effectivement été une des accusatrices principales et une des sources principales de l'enquête de Miami Herald dont je parlais tout à l'heure.
Encore un mot, Jean-Gabriel, oui. Fredet, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, Virginia Robert Giuffre, donc accusatrice, oui, centrale, elle est passée par toutes les étapes du système Epstein, si je puis dire.
Absolument, elle a été, c'est une des premières à avoir subi les assauts d'Epstein, c'était sa préférée, mais en même temps, lui, il y avait cette espèce d'ambiguïté d'Epstein vis-à-vis de ses victimes. Il était capable de les gratifier, de leur offrir des toilettes, de les emmener dans son avion, et en même temps, très cyniquement, après avoir abusé d'elle, il les prêtait.
C'est un vrai trafiquant, quoi.
Un vrai trafiquant. J'ajoute, je crois que Mahony a complètement raison, le rôle des médias était très important. Pendant très longtemps, le New York Times, la bonne presse, n'a rien dit. Et c'est finalement un petit journal de province, petit, entre guillemets, le Miami Herald, qui va mettre, comme vous dites, le feu aux poudres. Plus Bradley Edwards, un petit avocat, qui va fédérer les victimes et qui va s'appuyer sur la fondation de Virginia.
Le procès tant attendu de Jeffrey Epstein n'aura pas lieu. Suicide ou meurtre, il va être retrouvé mort dans sa cellule. Il ne pourra donc révéler aucun de ses secrets qu'il gardait si précieusement. Le 10 août 2019, à 6h15 du matin, le gardien Robert Walker du Metropolitan Correctional Center de New York fait sa tournée d'inspection. À travers l'œilleton de la cellule du détenu 783-18-054, le matricule de Jeffrey Epstein, il aperçoit un homme à genoux et apparemment sans connaissance. Il se précipite, le financier est cyanosé, les yeux exorbités. Il a réussi à se pendre quasiment au ras du sol. Fin juillet, déjà, le détenu avait été découvert avec des traces d'ecchymose autour du cou, les mains et les pieds bleuis. Il avait alors été transféré dans une cellule disposant d'un kit anti-suicide. L'autopsie révèle un écrasement en de multiples endroits de l'os hyoïde, dans le larynx. Un constat qui peut également correspondre à une strangulation. Jeffrey Epstein aurait-il été éliminé pour l'empêcher de faire toute déclaration gênante ? À ce jour, l'enquête sur sa mort n'a pas établi l'intervention d'un tiers. Cette mort suspecte prive les victimes d'un procès au cours duquel aurait comparu leur bourreau. Mais elle n'a toutefois pas arrêté la marche de la justice. Au mois de juillet prochain, Ghislaine Maxwell, considérée comme l'âme damnée de Jeffrey Epstein, femme au service de tous ses plaisirs, Ghislaine Maxwell comparaîtra devant un tribunal de Manhattan. Elle avait été arrêtée au mois de juillet 2020. Sa libération sous caution, 28,5 millions de dollars, lui a été refusée. Que dira cette femme de 59 ans qui supporte mal son incarcération ? Un an avant sa mort, Epstein avait confié à un journaliste qu'il détenait un tas de sales petits secrets. Olivier O'Mahony, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et l'un de nos invités. Est-ce que Ghislaine Maxwell, qui va être jugée au mois de juillet, est-ce qu'elle va finalement porter le chapeau et payer pour les crimes d'Epstein ?
Bah, je crois qu'elle le porte déjà, parce qu'on a diffusé dans Paris Match une interview de son frère Ian Maxwell qui dénonce ses conditions d'incarcération et qui parle carrément de torture. Elle vit donc dans la prison de Brooklyn, dans une prison de Brooklyn qui donc elle ne dort pas, ou en tout cas elle dort très mal parce qu'on allume la lumière une fois toutes les 15 minutes. Elle mange très mal, elle boit très mal, elle a perdu 10 kilos, elle perd ses cheveux. Donc, si vous voulez, elle va très très mal. Moi, ce que je crois, c'est qu'actuellement, elle paye son arrogance, car il faut quand même se souvenir que pendant les différentes étapes de la procédure, quand elle était interrogée par les enquêteurs, elle faisait preuve d'une arrogance qui était absolument incroyable quand on lit les procès-verbaux, d'une part, et d'autre part, elle connaît tout du système Epstein. Elle est vraiment au cœur du système Epstein, et en particulier celui qui vraiment doit être très inquiet aujourd'hui, c'est évidemment le prince Andrew, qui était son grand ami. Vous savez que le prince Andrew, c'était, on a même dit à une époque, elle aurait peut-être eu une affaire avec lui, ça n'a pas été prouvé, mais elle était très proche de lui, donc elle a beaucoup de choses à dire sur lui.
Ce que vous nous dites, Olivier O'Mahony, c'est que finalement, Ghislaine Maxwell, c'est une grenade dégoupillée.
Absolument, elle risque 35 ans de prison. Et donc, pour faire la seule façon pour elle de faire baisser la note, si je puis dire, c'est de se mettre à table, donner des noms. C'est comme ça que fonctionne le système judiciaire américain, vous savez.
Oui, c'est ça, donc, c'est donnant-donnant, quoi.
Voilà.
Donnant-donnant. Voilà. Alors, encore un mot, Olivier O'Mahony, parce que vous êtes évidemment penché sur cette histoire et il y avait eu des papiers dans Match au moment de cette mort étrange. Où en est-on sur ce suicide où tout est trouble dans cette affaire? Il y a une enquête, je crois, qui a été ouverte après cette mort.
Oui, qui n'a pas dit autre chose que suicide. Hein. Son frère, alors il y a le frère de Jeffrey Epstein qui a effectivement commandité un médecin légiste. Enfin, c'est pas le terme exact, mais en tout cas une contre-enquête et qui est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre. Il faut savoir que. Un jour avant, un ou deux jours, je crois que c'est vraiment la veille avant la mort d'Epstein, Epstein avait réglé son testament, signé son testament. À mon sens, ça plaît plutôt
pour un suicide,
ouais.
C'est ça, c'est un peu votre sentiment en tout cas, et oui. Vous qui suivez l'affaire de près, évidemment, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Jean-Gabriel Fredet, notre invité ce soir également de l'heure du crime, auteur de L'île de tous les vices, ce livre sur l'affaire Epstein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite désormais de ce procès? Parce que là, toute l'enquête va être refaite au cours du procès. Hein. C'est la procédure américaine, donc on va tout mettre sur la table.
Mais absolument, on va refaire l'enquête, mais dans les attendus de son inculpation, de l'inculpation de Ghislaine Maxwell, on dit bien qu'elle a été recruteuse, instructrice des victimes, partenaire, c'est quand même très très lourd.
C'est au-delà de la mère Maquerel. Hein.
C'est très très au-delà de la mère Maquerel. Et effectivement, son comportement en surplomb, où elle s'imaginait ne devoir de compte à rendre à personne, ne l'a pas aidé. Ce qui ne l'a pas aidé non plus, c'est de plaider non coupable. Si vous plaidez coupable, le bargain, la possibilité d'obtenir
le fameux accord,
une réduction de peine. Est ouverte. Si vous plaidez non coupable, c'est un petit peu le quitte ou double.
Le quitte ou double, bien sûr. Alors, Jean-Gabriel Fredet, est-ce que, selon vous, des personnalités connues peuvent être impliquées lors de ce procès? Est-ce que ça peut être gênant? On a parlé, Olivier O'Mahony nous parlait là de la couronne d'Angleterre. Hein, donc,
oui, mais la couronne. Non, mais bien sûr, alors, si vous voulez, en termes de réputation, c'est épouvantable. La façon dont le prince Andrew, là, le deuxième fils de la reine, le duc d'York, s'est défendu est grotesque. Il a attiré l'attention sur lui par un interview où il prétendait de se disculper alors qu'il est patent. Il y a des photos qu'il montre qu'il a eu une affaire avec cette fameuse Virginia Giuffre que lui a, passez-moi l'expression, refilé Epstein,
c'est
qui
ça,
était son grand ami.
C'était pour lui faire plaisir, finalement,
pour lui faire
un petit cadeau.
Voilà. Mais alors de là à ce que d'autres personnes soient inculpées, c'est très compliqué parce que il faudrait que un élément concret. Il y a des présomptions, il y a des rumeurs.
Il faudrait qu'il y ait une nouvelle information.
Il faudrait qu'il y ait une nouvelle information.
Et alors un dernier mot parce qu'on arrive au bout de l'émission. Que devient vraiment en trois mots, que devient la fortune d'Epstein et la fameuse île de tous les vices? C'est encore une fois le titre de votre ouvrage.
Si vous voulez, il meurt Epstein, suicidé ou assassiné avec 650 millions de patrimoine, sans compter son hôtel particulier, etc. Donc cet argent sera peut-être... l'action pénale était peut-être éteinte, mais l'action commerciale, le recours civil, permettra peut-être aux victimes de se payer sur la bête.
Ce qui serait justice, finalement.
Ce qui ne serait que justice.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Fredet et Olivier O'Mahony d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Jeffrey Epstein, un prédateur sexuel mort. Mais il arrive que les morts continuent à parler. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.